Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, des hommages rendus suite au décès de Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire. Une interview pour annoncer les derniers rendez-vous à la médiathèque de Montgermont sur les forêts sauvages. De la musique dont une nouveauté, un reportage à l'ENSAB pour une exposition. La terre, un matériau universel. Et puis, recommandation, une chouette conférence pour les enfants. Bienvenue dans La Reine. Chaque jour, on débute l'émission d'information locale avec l'info du jour. Depuis hier, lundi 23 octobre, les hommages se multiplient suite au décès de Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire. Ce dernier avait annoncé au mois de mai souffrir d'un cancer du poumon qui l'a finalement emporté en ce début de semaine. Pierre Breteau, il avait 53 ans, était maire de Saint-Grégoire pour le troisième mandat consécutif, adhérent au parti d'Édouard Philippe Horizon, également conseiller métropolitain et départemental, où il menait l'opposition avec le groupe de l'Union du Centre et de la Droite. Il était, en plus de ses casquettes, aussi président des établissements publics commerciaux et industriels de Bretagne et de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine. L'Association des maires de France, dont il était vice-président, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, tout comme la maire de Rennes ou encore le président de région, de nombreux hommes et femmes politiques à l'échelle locale, mais aussi des élus nationaux comme le ministre délégué aux comptes publics. Tous ont salué, parfois au-delà des divergences politiques, une personne respectueuse et toujours dans le dialogue. L'élection d'un nouveau maire devrait bientôt avoir lieu dans la ville de Saint-Grégoire, mais pour le moment, les drapeaux sont en berne à la mairie et un livre d'or est disponible pour ceux qui souhaiteraient rendre hommage à Pierre Breteau. Allez, après cette info du jour, c'est le moment de l'interview du jour. Morgane Soltès et Alexandre Patureau, bonjour à tous les deux.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors je vous présente, Morgane, vous êtes responsable de la médiathèque L'Embarcadère à Montgermont, tout près de Rennes. Et Alexandre, vous êtes membre de l'association Wild Bretagne qui propose plein d'événements depuis le début du mois dans cette médiathèque. On commence par représenter le collectif qui est plutôt nouveau dans le paysage associatif rennais et breton. On avait déjà parlé de vous dans cette émission d'info locale pour une exposition à l'Hôtel Dieu. J'arrivais pas à me rappeler si c'était en 2022 ou cette année.
Alors, c'était en 2022, ouais, c'était l'année dernière, c'était en décembre 2022. Et notre association, c'est une association à but non lucratif qui a deux missions principales. La première, c'est d'acheter des terrains pour les laisser en libre évolution à l'état sauvage. Il faut savoir qu'en France, on a peu d'espace en libre évolution sans aucune intervention humaine. Et en Bretagne, on est une des régions les moins boisées de France. Alors du coup, nous, on intervient sur cette problématique. Et la deuxième mission, c'est de sensibiliser par l'art et le jeu à cette question du sauvage et notre rapport au vivant.
Vous êtes combien de membres aujourd'hui chez Wild Bretagne ?
Alors on est maintenant une trentaine de membres, il y en a plus ou moins actifs. En fait, en fonction de l'envie et du temps de chacun, on trouve toujours des petites missions à réaliser. Et donc on est une trentaine en tout, mais on va dire une dizaine d'actifs actifs, quoi.
Vous avez un projet de réserve pas très loin de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Où est-ce qu'il en est ce projet aujourd'hui ? Et puis est-ce que vous imaginez en lancer d'autres de ce genre ?
Alors ouais, c'est plus à l'état de projet, on a fait un financement participatif l'année dernière, on voulait récolter 7000 euros et au final on en a récolté 27000, ce qui nous a permis d'acheter notre première réserve, une petite et jeune réserve, mais comme notre association, de 18000 m2 qui est à Plouec-du-Trieux, qui est à mi-chemin entre forêt, champ et rivière. C'est un endroit magnifique pour la biodiversité. Et du coup là dans l'idée, on se questionne, on est en train de réfléchir avec les fonds supplémentaires, soit agrandir la zone, soit de faire un appel à projet pour s'il y a des zones menacées d'intérêt écologique à protéger et à mettre en libre évolution. Donc ça, c'est en discussion en cours, mais c'est prévu d'utiliser cet argent toujours pour créer des zones en libre évolution, quoi. En Bretagne uniquement.
Et alors, vous parlez de libre évolution, comment est-ce qu'on peut expliquer la manière dont on rend sauvage une forêt? Ça marche comment?
Alors c'est relativement simple. S'il y a déjà une forêt, le seul chose c'est de ne rien faire. Il y a un très bon exemple, il y a par exemple la réserve du Trégor qui a été faite par l'ASPAS, qui est une autre association au niveau national, où là, il y avait des espèces qui étaient non locales, donc des conifères, qui n'étaient pas du tout adaptées au climat. Et en fait, c'est laissé en libre évolution. Et quand on va l'observer, on voit que les essences locales adaptées, comme le hêtre, sont en train de reprendre le pas. Et donc, l'avantage, c'est que la nature, elle est bien faite. C'est que si on n'intervient pas, naturellement, la forêt va se reconstituer par elle-même en choisissant les espèces qui sont le plus adaptées en termes de climat, de lumière et de sol pour pouvoir s'implanter. Donc, c'est plutôt facile. Il faut ne rien faire. Mais il faut accepter de ne rien faire et que ça puisse prendre un certain temps, voire un temps très long. Pour donner une petite idée, par exemple, aussi à la réserve de Plouec du Trieux, c'est déjà une jeune forêt sauvage. C'est un champ qui a été laissé en libre évolution, donc sans aucune intervention humaine. C'est une jeune forêt sauvage avec plein d'essences diversifiées locales bretonnes. Et avant d'obtenir une vraie forêt sauvage, une forêt au caractère primaire, il va falloir attendre entre 600, 700, voire 1000 ans pour justement voir des très grands arbres, très vieux arbres, du bois mort au sol et toute la diversité qui fait la beauté des forêts sauvages.
Donc il va falloir être un petit peu patient. Et quelle place il a, le public, le promeneur, dans ce type de réserve ?
Et dans ce type de réserve, il est le bienvenu. On a en fait déjà un chemin qui est tracé. La seule règle, c'est de ne pas sortir des chemins. Et si on veut potentiellement observer la vie sauvage, et il faut apprendre à être discret, à laisser notre place aux autres êtres vivants. On occupe déjà toute la place partout. Là, l'idée de ces réserves-là, c'est d'être discret, d'apprendre à regarder autour de nous, d'observer, de prendre son temps. Et donc, on peut venir s'y balader, mais en restant sur les chemins. On fait régulièrement des balades botaniques participatives aussi pour que ceux qui veulent découvrir la libre évolution sur le terrain et comprendre comment fonctionnent les forêts et comment les arbres choisissent de s'implanter, c'est toujours mieux de le voir en vrai de ses propres yeux. C'est d'ailleurs une animation qu'on fait aussi mercredi prochain à la médiathèque de Montgermont. Et c'est participatif dans le sens où s'il y en a qui ont des suggestions, des idées, des petites anecdotes à raconter, ils peuvent les partager aussi au groupe. C'est cette idée de créer un commun, aussi bien un imaginaire commun que des lieux communs, quoi.
On va y arriver à cette programmation. Là, vous évoquez une sortie qui va avoir lieu. Depuis le début du mois d'octobre, la médiathèque de Montgermont, elle a laissé une carte blanche à votre association, l'association Wild Bretagne. Deux sorties ont déjà eu lieu, une sortie philo et une sortie herbier. Il y a aussi eu une projection. On pourra peut-être dire un mot sur le film projeté. Morgan Soltès, donc vous venez de la médiathèque L'Embarcadère à Montgermont. Pourquoi mettre en lumière cette association-là ? Comment a eu lieu cette mise en relation ?
Alors nous, ce qu'on avait envie, c'est déjà de travailler sur un public un petit peu plus adulte et des propositions qui changent de l'ordinaire. Habituellement, on fait davantage de choses dédiées à la petite enfance, ce qui est vraiment très important aussi pour notre fonctionnement. Là, pourquoi les forêts sauvages ? En fait, on avait au niveau de la mairie un travail qui a été fait avec donc les services, mais aussi des associations autour de l'écologie, autour des jardins avant l'été. Donc nous, au niveau programmation, on pouvait pas tellement se caler sur ces dates-là, mais on a poursuivi donc après l'été avec un temps fort sur les forêts sauvages. On avait aussi envie de travailler avec une association locale qui nous permette de mettre en valeur les initiatives bretonnes, mais aussi on a un tout petit budget d'animation culturelle, donc avec une association et pas juste avec un collectif ou des professionnels, on permet aussi d'avoir un budget plus favorable pour nous. Et là, l'intérêt, c'est aussi de proposer des choses plus des sorties familiales, mais aussi des sorties, on va dire, parents, enfants, ados à partir de 14 ans. Et c'est le cas, effectivement, pour la sortie nature de mercredi et aussi le jeu de rôle d'anticipation qu'on fait ce vendredi soir. Donc, c'est aussi une nouveauté pour nous de proposer des choses en soirée. Donc, ça permet de diversifier les propositions au public. Et on a toujours l'exposition qui est vraiment notre temps fort, notre fil rouge autour de laquelle toutes les autres animations gravitent. Et donc c'est une magnifique expo que je vous invite à venir voir, donc qui allie la photo mais aussi la peinture autour de cette belle forêt sauvage dont Alexandre va sans doute pouvoir nous parler, qui est à Białowieża, donc entre la Pologne et la Biélorussie.
On va pouvoir détailler un petit peu plus ce qu'il reste à voir et à vivre pour le public là dans les jours à venir. Peut-être juste dire à quoi elle ressemble, cette médiathèque de Montgermont, pour les auditeurs qui y sont jamais allés. Je trouve qu'on a la chance sur le territoire de Rennes Métropole d'avoir ces lieux là qui sont très accessibles et puis force de proposition pour attirer des publics sur autre chose que de la lecture. Là, c'est le cas.
Oui.
On replante un peu le décor.
Le décor. Alors nous, on est une bibliothèque municipale, donc une petite commune, environ 3500 habitants, donc grosso modo nord-ouest de Rennes. Notre bibliothèque, elle est située dans un centre culturel qui s'appelle l'espace Évasion Bernard Douard, donc qui est 2 rue des Courtines à Montgermont. C'est accessible en bus, vous avez le bus 52 qui passe, donc c'est à un quart d'heure de Rennes, c'est très facile d'y venir. Il y a aussi un parking, enfin voilà. Alors nous, la médiathèque, elle est à l'étage de l'espace Évasion, au bout d'un couloir à droite. Donc on a classiquement, comme les médiathèques, un espace adulte, un espace jeunesse et un espace ado depuis l'année dernière avec plein de mangas. On a une spécificité qui est un petit peu l'art plastique au niveau de nos fonds documentaires, parce qu'on a le salon de l'aquarelle qui a lieu à Montgermont chaque année. Et puis cette année, on a un petit peu plus développé l'accessibilité avec des romans français langue étrangère, parce qu'on a des cours de FLE sur Montgermont en lien avec Rennes Métropole, mais aussi voilà, des romans pour l'apprentissage des langues, un fond facile à lire, un petit fond lire autrement pour les enfants avec la dyslexie, un petit peu de braille, des livres audio, voilà. Donc pour faire grosso modo la présentation de la médiathèque.
Donc plein de choses à découvrir dans cette médiathèque de Montgermont. Ce qui est toujours à voir dans cette médiathèque jusqu'au 28 octobre, c'est donc d'abord une exposition Bialowiesa, dernière grande forêt sauvage d'Europe, c'est son nom. Une exposition qui nous emmène entre la Pologne et la Biélorussie, et c'est vous qui avez pris les photos qu'on découvre, Alexandre Patureau.
Oui, cette exposition, c'est le résultat de 2 mois de voyage à Bialowiesa avec une bande d'amis. On voulait découvrir qu'est-ce que c'est une forêt sauvage, parce qu'on voulait comprendre ce qu'on voulait défendre. Et donc, on n'avait jamais vu de forêt primaire de nos propres yeux, de forêt primaire en Europe. Et donc, on a été voir cette forêt et elle ressemble en rien aux forêts qui sont autour de nous. En fait, on a des forêts avec des très grands arbres, beaucoup de bois morts. En fait, on se rend compte que nos forêts qui sont partout autour de nous, elles sont très exploitées. Pour donner un petit chiffre et qu'on s'est renseigné au fur et à mesure, il y a que 0,14% des forêts françaises qui sont laissées en libre évolution à l'état sauvage. Donc en fait, toutes les forêts qu'on voit autour de nous, elles sont souvent très jeunes. Pour donner un autre ratio, pour essayer de voir la différence que ça peut donner, c'est que aussi les arbres, par exemple les chênes, en moyenne dans nos forêts, ils sont coupés quand ils ont entre 100 et 120 ans. Alors que là-bas, à Bialowiesa, les arbres, ils peuvent vivre 400, 600, voire 700 ans pour les plus vieux. Et du coup, ça nous fait des arbres magnifiques, énormes, avec toute une biodiversité très riche à l'intérieur. Et l'idée de cette exposition, c'était de montrer un peu toutes ces spécificités de cette forêt de Bialowiesa en mêlant photos et peintures. Donc j'ai pris des photos et mon ami Yann Moisan a fait les magnifiques peintures qui sont autour. Et c'était aussi pour pouvoir soulever la disparition entre le réel et les imaginaires autour de la forêt. Parce que malheureusement, nous, dans notre paysage breton et même en France, on a très peu de paysages primaires qu'on peut voir. Et donc c'est un imaginaire qui disparaît. On voulait le soulever en mélangeant les deux. Et il y a les textes aussi de Sane Pasquier, qui est la troisième artiste, qui appuie aussi et qui amène des informations sur ce voyage et sur ce vécu qu'on a ressenti. Une exposition à trois mains, quoi.
Vous avez prolongé ce travail avec un film qui a été projeté en avant-première la semaine dernière à Montgermont, un film qui est encore en rodage. C'est quoi la suite? Il y a d'autres projections peut-être prévues ou une mise en ligne annoncée?
Alors là on est en phase de rodage parce que là pour moi c'est mon premier documentaire, en tout cas long métrage, et donc là cette première séance elle était hyper intéressante. Le but c'était de récolter des avis et des ressentis aussi sur le documentaire, qui parle de plein d'aspects, à la fois de la forêt sauvage, comment en faire revenir, et les problématiques aussi qui sont dans la forêt sauvage, donc c'est-à-dire l'exploitation qui arrive dans la forêt et ainsi de suite. Et donc l'idée c'était de voir comment déjà ce premier documentaire a été perçu pour l'améliorer. Il y aura sûrement une deuxième phase de rodage dans quelques mois, dans 1 ou 2 mois. Il y aura une vérification aussi scientifique pour être sûr que malgré qu'on a interviewé plein de scientifiques et qu'on a vulgarisé des éléments, qu'il n'y ait aucune erreur à l'intérieur. Et ensuite, on espère l'avoir fini et une diffusion finale pour le courant de l'été. On le fera d'abord vivre dans les festivals, parce qu'on a l'habitude avec l'association aussi de bouger dans les festivals avec différentes animations, et on le rendra en ligne disponible après cette tournée. On le rendra entièrement gratuit et disponible fin de l'année prochaine ou début de l'année d'après, quoi, 2025. Quoi.
On aura l'occasion sans doute d'en reparler dans l'émission d'Info Local au moment de cette mise en ligne. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est aussi pour annoncer 2 rendez-vous qui restent à venir dans le cadre de cette carte blanche laissée à l'association Wild Bretagne durant le mois d'octobre.
D'abord, la dernière des trois sorties qui a donc lieu demain après-midi. Ça peut être une idée d'occupation pour les adolescents qui sont actuellement en vacances, je crois. Une sortie forêt sauvage, ça va ressembler à quoi, Alexandre ?
Eh ben, une sortie forêt sauvage, c'est l'idée d'essayer de montrer et d'essayer de comprendre pourquoi les arbres ils sont présents à un endroit et qu'est-ce qu'ils apportent au milieu. L'idée, c'est un peu comme si j'essayais de vous emmener dans la forêt de Bielawesa, mais en prenant les arbres qui sont autour de nous, les espèces locales et adaptées. Et donc, en fait, on va se retrouver à la médiathèque, on va prendre un petit temps où on va sortir dehors et on va discuter des forêts sauvages. Je vais vous montrer plusieurs arbres, pourquoi ils sont présents ici, qu'est-ce qu'ils apportent, et essayer de vous emmener avec moi dans cette forêt sauvage et de vous ramener un petit bout de Bielawesa directement à Montgermont, quoi.
C'est une sortie qui est prévue donc mercredi 25 octobre de 15h à 16h30 pour un public d'ados et d'adultes à partir de 14 ans. C'est gratuit, mais sur inscription. Je donne tout de suite le site pour s'inscrire pour ce rendez-vous qui a lieu demain, médiathèque au pluriel .syrenor, syrenor.fr. Et deuxième proposition, là on retourne en intérieur après cette virée en forêt à Montgermont pour une soirée jeu de rôle. C'est là aussi pour un public ado adulte, ça se passe vendredi soir. Ça va ressembler à quoi ce moment? C'est un à la fois entre le jeu, la coopération, l'imaginaire.
Ouais, exactement. En fait, c'est tiré du livre Bâtir aussi, qui est un livre qui a été écrit par trois autoristes, dont un est breton, et qui réfléchit à un imaginaire post-pétrole. Et tiré de ce livre, ils ont créé un atelier qu'ils ont fait déjà dans plus de 100 dates, et nous, ils nous ont formés à cet atelier pour qu'on puisse l'animer. Et c'est l'idée de s'imaginer soi-même dans un monde post-pétrole, dans un monde désirable, qu'est-ce qu'on aimerait voir et qu'est-ce qu'on aimerait voir autour de nous et faire avec les autres. C'est pas du tout l'idée que ce soit forcément directement réalisable. L'idée, c'est que c'est un jeu d'expression, un jeu d'imaginaire pour essayer de se projeter dans un futur désirable et jouer avec d'autres personnes. Ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'on va projeter son propre imaginaire et que chacun va aussi projeter son imaginaire, et bien en fait ceux des autres qu'on va croiser vont nourrir le nôtre et ça va créer comme ça autour de nous toute une construction et tout un nouveau monde qui peut se bâtir autour de nous. Donc c'est vraiment une animation qui est adaptée pour tous les publics, hein, que ce soit justement comme vous disiez les ados ou les adultes, que vous soyez sensibilisé ou non à l'écologie, il n'y a pas du tout besoin de s'y connaître justement pour parler du monde d'après, c'est justement réfléchir ensemble à comment on voudrait voir demain et comment on voudrait y participer.
Une soirée jeu de rôle qui a lieu vendredi 27 octobre à partir de 19h jusqu'à 21h30. Ça se passe à la médiathèque de Montgermont et c'est là aussi gratuit mais toujours sur inscription.
Et juste pour préciser, vous pouvez apporter votre sandwich, nous on fournit la boisson. Il n'y a pas besoin de savoir lire ni écrire et c'est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, tout comme la sortie de mercredi après-midi sur les forêts sauvages. Voilà.
Et je vous représente tous les deux, Alexandre Patureau, vous êtes membre de cette association Wild Bretagne qui propose plein de choses durant tout ce mois d'octobre à la médiathèque où vous travaillez, Morgane Soltès, vous êtes responsable de la médiathèque L'Embarcadère du côté de Montgermont, tout près de Rennes. Des choses à ajouter ?
Oui, je voudrais remercier mes collègues quand même, Karine et Thomas, qui ont fait un travail formidable autour de cette exposition, puisqu'ils ont aussi sensibilisé tous les scolaires de Montgermont, donc que ce soit les écoles privées, les écoles publiques, mais aussi les maternelles, et aussi les enfants avec les assistantes maternelles, qui ont tous vu cette exposition et qui ont pu faire des petits mémories sur les forêts sauvages, voilà, des animations avec des petites comptines, etc. Donc voilà, l'ensemble du public de Montgermont a été vraiment convié autour de ce temps fort, donc on est vraiment ravis que ça fonctionne.
Bah moi je veux en profiter pour remercier aussi la bibliothèque de Montgermont parce qu'on a été à la fois super bien accueillis et ils créent du lien avec aussi des sélections de livres qu'ils ont fait, dont un que je leur ai emprunté que je connaissais pas, donc vraiment c'est un super temps fort, un super moment de partage entre un lieu culturel, des personnes qui sont à l'intérieur et puis des personnes extérieures, donc vraiment c'est un chouette moment.
La référence du livre, c'est quoi ce livre que vous avez découvert?
C'est Sanglier, géographie d'un animal politique. L'auteur c'est Raphaël Madvet et Roméo Bondon. Et donc c'est un livre hyper intéressant parce que ça parle de cette notion de quelle place on laisse au sauvage autour de nous. Et le sanglier, c'est un animal politique parce qu'il crée potentiellement des conflits d'usage. Et donc c'est intéressant de se questionner de la place qu'on lui laisse et la place qu'on veut lui laisser.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Lucie.
Merci pour l'invitation.
Molécule avec le morceau Recall. C'est le choix musical d'Alexandre Patureau, l'un des deux invités qu'on vient de recevoir en studio. Et c'est un titre à retrouver dans un livre disque qui s'appelle 60 degrés 43 secondes Nord. Le résultat d'un périple de Molécule, dont le vrai nom est Romain Delahaye, qui a été embarqué 34 jours sans escale en Atlantique Nord. Un livre disque qui est sorti en 2015. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute sur le 94.0 ou peut-être sur notre site canalb.fr. On continue cette émission avec maintenant un reportage. Un reportage réalisé par Corentin, notre volontaire en service civique qui s'est rendu jeudi dernier à l'ENSAB, l'École nationale d'architecture de Bretagne. Il est allé à la rencontre de TICAS, une association étudiante de cette école qui présente en ce moment une exposition « La Terre, un matériau universel ». Expo organisée en lien avec un chantier qui a été mené au Bénin, une façon de promouvoir l'éco-construction à leur retour auprès des étudiants ici en France. L'exposition est visible à la galerie Aouen du Crous jusqu'à ce vendredi 27 octobre.
Aujourd'hui, je suis à l'ENSAB, l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, pour rencontrer Quentin de l'assaut TICAS. C'est le moment du vernissage de leur exposition « La Terre, un matériau universel ». Bonjour Quentin.
Bonjour.
Tu es le président de TICAS, une asso étudiante de l'école d'archi de Rennes, dont le but est de promouvoir et de former à l'éco-construction dans le milieu du bâtiment, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est une asso qui s'est créée dans le cadre d'un voyage d'études dans un atelier de projet au Bénin, donc en Afrique. Et l'objectif de ce voyage était de pratiquer le chantier à l'échelle 1 dans un pays étranger. Et au retour du voyage, en fait, l'asso était un peu tombée en désuétude. Et donc, on a décidé de s'emparer du sujet pour dire qu'on reproduirait ce genre de choses ici en France, dans le bassin rennais, pour pratiquer l'échelle 1 dans le cadre de chantiers participatifs ici dans le coin. Et donc l'an dernier, on a eu la chance d'avoir un appel de l'association qui a accueilli l'équipe précédente en fait il y a 4 ans, qui nous a rappelé pour retourner au Bénin. Et donc c'est comme ça que ce voyage s'est renouvelé en fait.
Le premier voyage dont tu parles, c'est celui de 2020, il n'y en a pas eu d'autres?
Oui, c'est ça. En fait, l'école d'archi est partie au total 4 ou 5 fois, je crois, au Bénin. Et c'était la première fois en 2020 sous le nom de TICAS. Et c'était encore co-encadré par les enseignants de l'école dans le cadre d'un atelier. Alors qu'aujourd'hui, on est parti au Bénin uniquement sous le nom de TICAS. Et donc, dans un objectif de solidarité internationale, d'apprentissage d'une culture et d'une pratique constructive. Et donc, on était plus dans un cadre pédagogique, mais plus d'exploration et d'apprentissage de l'échelle 1.
Hormis vos voyages au Bénin, c'est quoi vos principales activités que vous faites en France, du coup ?
Cette année, on a effectué pas mal de choses en plus des chantiers. Donc, on a fait des projections de films avec des moments de débat, comme on va avoir ce soir à l'école. Donc, autour de la construction, mais pas que. On a aussi des films autour de l'écologie et de la transition énergétique. Et on a aussi fait une fresque du climat et on propose des workshops en plus des chantiers participatifs au sein de l'école, de manière à ce que les étudiants puissent, entre les murs de l'école, expérimenter l'échelle 1 et quitter les bancs de l'amphi pour pouvoir innover et expérimenter de leurs mains plutôt que de réfléchir derrière un écran ou derrière une feuille.
Du coup, en avril 2023, t'en parlais, vous êtes parti à 12 au Bénin. Vous avez ensuite produit une exposition qui relate un peu tout ce voyage. C'est ce qu'on inaugure aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de partir là-bas ?
Le voyage au Bénin, c'est né d'une demande de Hyacinthe, le président de l'association COF Espoir, donc qui avait accueilli l'équipe de 2020, qui nous a rappelé en nous disant qu'il avait un projet en cours dans sa ferme pédagogique et qu'il aimerait bien que l'école d'archi revienne entre les murs de sa ferme pour pouvoir construire ce nouveau bâtiment avec le même échange qu'il avait pu avoir en 2020, qu'il avait beaucoup apprécié. Et donc nous, on était super partants parce qu'on se retrouvait beaucoup dans ce projet, puisque c'était au service d'une communauté locale, que c'était une co-conception de A à Z et une co-construction. Et donc on apprenait vraiment de leur culture et de leur savoir-faire. Et donc ça nous changeait un petit peu de nos chantiers locaux. Et on a décidé de faire une exposition de restitution de tout ça parce qu'on a trouvé que c'était un voyage très riche Et on a appris énormément de choses là-bas et on trouvait ça dommage que ce soit réservé à une quinzaine d'étudiants. Et on avait envie de diffuser tout ce qu'on a appris là-bas dans le cadre de l'école et voire même au-delà à l'échelle de la ville de Rennes, puisqu'on a une autre expo dans la salle à Wen du Crous, mais pas que, on va en avoir d'autres encore ensuite. Et donc voilà, c'était l'idée de l'exposition, c'était de transmettre ce qu'on a appris là-bas, de montrer comment on a construit, avec qui et pour qui.
L'association COF Espoir, c'est une association qui est basée au Bénin et qui fait de l'humanitaire là-bas, c'est bien ça ?
Ils ne font pas vraiment de l'humanitaire, c'est une ONG effectivement. C'est une ferme qui s'est construite sur le terrain de Hyacinthe, donc c'est une personnalité très engagée dans sa commune. Et il a décidé dans sa ferme de mener de la pédagogie autour de l'agriculture, mais aussi travailler dans la réinsertion des femmes au niveau du travail là-bas, puisque c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et aujourd'hui, il a aussi envie d'accueillir des enfants, les enfants qui n'ont pas accès à l'école ou à l'informatique ou à ce genre de choses. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'il nous a invités. C'était pour construire une salle informatique dans sa ferme. Et en fait, dès cet été, tout le mois de juillet, il a accueilli un camp avec une cinquantaine d'enfants qui ont pu utiliser la salle informatique pour utiliser le numérique, pour avoir accès à Internet. Et donc, c'est des enjeux qui sont hyper importants pour lui, cette idée de donner la chance aux enfants d'avoir accès à tout ça. Et il a été très reconnaissant avec nous du fait qu'on soit venu partager et planter une graine, en fait, avec lui dans sa grosse dynamique de partage avec les villages voisins, quoi.
J'imagine que vous aviez participé à d'autres chantiers en éco-construction en France avant de partir au Bénin. Ça devait être quand même plutôt très différent.
Et bah pas tant que ça finalement. C'est comme ça qu'on a choisi notre titre d'exposition, La Terre, un matériau universel. Puisque en fait, en Bretagne, la technique constructive identitaire en terre, c'est la bauge. Et en fait, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté du globe, dans l'hémisphère sud, en Afrique, bah on s'est retrouvé à manipuler la terre de la même manière et construire en fait comme si on faisait de la bauge, quoi. C'est des techniques en fait qui traversent le globe et qui servent les mêmes intérêts. On est intimement convaincu COF Espoir comme Ticaz que la terre est une solution durable à la construction et on a beaucoup retrouvé ça sur le chantier du Bénin. Donc au final, quand on est revenu, on s'est rendu compte que nos chantiers en France n'étaient pas si différents que ça et qu'on était dans la bonne dynamique et dans la bonne direction. Mais ce qui a beaucoup changé en fait là-bas, c'est la culture et le rapport en fait au métier de l'archi, au métier de l'artisan, à la construction en général. On a complètement remis en question nos manières de pratiquer. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on fait des chantiers en Bretagne, on n'a plus du tout le même regard en fait sur la construction et sur notre place en tant qu'archi ou artisan. Ou même le rapport à la matière est différent aussi. On a vraiment été chercher les arbres dans la forêt ou la terre dans une carrière juste à côté du site. Alors qu'en France, on est pas mal déconnecté de ça et ça faisait du bien aussi de se reconnecter à la nature et à la matière première.
Et la différence, c'est peut-être aussi le public à qui c'est destiné. Enfin, en tant qu'archi en France, souvent, on fait des choses pour un public aisé qui veulent des maisons très stylées, très modernes. Est-ce que bah, du coup, ça, c'est un truc qui vous a remis en question là-dedans un peu ?
Oui, c'est vrai. Il y a un chantier qu'on a fait en Bretagne l'année dernière. C'était des enduits en terre dans un équipement scolaire à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et donc effectivement, là, c'était un gros projet qui était à 3 millions, un énorme équipement. Donc là, on voyait qu'il y avait des moyens mis en œuvre pour manipuler la terre. Alors qu'au Bénin, en fait, quand on construit en terre, c'est le mode constructif du pauvre. Et ça faisait du bien, en fait, de voir en fait en Afrique que c'était presque une évidence en fait de construire en terre plutôt qu'en France où, comme tu l'as dit, c'est réservé à une classe plutôt aisée. C'est pas la maison de tout le monde.
Vous parlez de la technique du banco et vous en parlez en disant que c'est une mise en œuvre atypique et conviviale. C'est quoi cette technique ?
Alors en fait, le banco, c'est un peu le même système que la bauge. C'est un pétrissage de la terre au pied, mélangé parfois à de la fibre et ensuite formé sous forme de pâtons, donc des boules de terre qui sont ensuite empilées les unes sur les autres pour faire des levées de terre, en fait. Et donc la différence entre la bauge qu'on puisse faire en France ou le banco, c'est qu'on avait vraiment cette énergie au Bénin de se dire, dès qu'il y a un chantier, c'est tout le village qui vient participer. Et donc là, on était 15 Français, il y avait une dizaine de Béninois, ou voire une quinzaine, et donc on était 30 sur le chantier. Et quand on faisait un mélange, tout le monde piétinait, on rajoutait tous la paille, après on formait tous les boules et après on se les envoyait à la chaîne. Et c'était vraiment un travail hyper familial, hyper convivial de se balancer les boules, les empiler. Les maçons, ils étaient en bout de chaîne et ils enchaînaient les murs. C'était hyper impressionnant en fait la manière dont ça se construisait. Alors qu'en France, en général, sur les chantiers, on est bien moins nombreux. Pour faire de la bauge, on peut être 5, 10, grand maximum, quoi. Et donc, c'est pas du tout la même énergie de chantier et les choses n'avancent pas de la même manière.
Vous êtes une asso d'étudiants qui milite pour les bienfaits de la construction en terre. Alors qu'au Bénin, il y a un peu une dynamique différente où il va y avoir un rejet de cette technique pour aller vers le ciment qui est vu comme plus noble là-bas. Est-ce que ça a créé des incompréhensions avec les gens que vous avez pu rencontrer qui pourraient ne pas comprendre pourquoi vous êtes dans une perspective qui est autre que la leur ?
En fait, la situation qu'ils vivent aujourd'hui avec le ciment, on l'a connue il y a 50 ans. Quand le ciment est arrivé en France, on a tout le patrimoine en terre en France a été un peu saccagé par cette matière première, cette matière transformée d'ailleurs. Et il y a eu un gros manque de considération de ce patrimoine en terre en France. Et aujourd'hui, ils vivent la même chose en Afrique. Et donc, quand on est arrivé sur place, les portiques structuraux du bâtiment étaient en béton armé. Et c'est pas ce qu'on avait imaginé sur les plans initiaux avant qu'on parte, parce qu'on a co-construit le projet en amont de notre venue. Donc effectivement, ça nous a surpris de voir le béton armé. Visuellement, on n'était pas convaincus que structurellement, ça allait tenir. Et en fait, au fur et à mesure du chantier, les portiques en béton se sont effondrées. Et donc, on a dû réagir en conséquence face à ça. Et donc, forcément, à ce moment-là, ils étaient en incompréhension. Ils nous ont dit, mais comment ça se fait? Le béton, c'est censé être extraordinaire, ça tient. Et donc, on a eu un travail quand même assez pédagogique à ce niveau-là. Mais de toute façon, l'association Coff Espoir est militante aussi de son côté pour défendre la terre crue, et ça depuis plusieurs années. Mais malheureusement, en fait, il y a plein d'images comme ça qu'ils ont au quotidien de personnes riches qui se construisent des choses en béton, qui se disent que structurellement, c'est ce qu'il y a de mieux, alors qu'en France, on a vécu ça pendant de nombreuses années, et aujourd'hui, on en paye les pots cassés, quoi.
Avec le transport et l'agriculture, le secteur du bâtiment, c'est un des plus gros émetteurs de CO2. Est-ce que, à Tikas, vous pensez que c'est une fatalité? Est-ce que ce serait possible d'utiliser l'éco-construction dans l'architecture contemporaine, comme par exemple en France?
Oui. Avec Tikas, on en est intimement convaincu. Il est totalement nécessaire de réduire notre impact carbone dans la construction. Après, c'est sûr qu'il faut que ça se mette en place. C'est pas évident. On est en retard sur certains pays et on avance sur d'autres. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'il faut qu'on mène. Mais oui, j'ai espoir. Je pense qu'on peut arriver à faire cette transition par l'éco-construction. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit pas mal accompagné par le gouvernement. C'est parce que c'est un acte politique un peu. Et là-dessus, on a quand même pas mal de retard et pas mal de soucis.
C'est quoi les avantages de la terre crue?
Alors, la terre crue, déjà, c'est une matière première qui est en abondance sous nos pieds. La majeure partie du patrimoine ancien en Bretagne est en terre ou en pierre. Donc c'est des matériaux qu'on avait sous nos pieds, qui n'étaient pas transformés, qui n'étaient pas issus d'une calcination, d'une matière première. Et donc déjà pour ça, c'est un matériau qui est durable, puisque ce n'est pas une ressource fossile. Et ensuite, le matériau terre, c'est une matière qui a la capacité d'emmagasiner l'énergie solaire et de la restituer à un moment donné. Et donc, grâce aux matériaux terre, on peut avoir un confort d'été ou d'hiver très important. Donc, ça veut dire que la chaleur qu'on va avoir sur le mur pendant la journée, notamment à midi quand il va faire très chaud, elle va être emmagasinée par le mur. L'intérieur du bâtiment va rester frais. Et en fait, la nuit, la chaleur va se restituer à l'intérieur du bâtiment. Et on aura plus chaud la nuit. Et quand on a des murs qui sont très épais, parfois, la chaleur n'a même pas le temps de rentrer, qu'elle est déjà ressortie du mur, en fait. Et ça, on ne peut pas le retrouver avec des murs en béton et une isolation laine de roche, quoi. Et on peut avoir les mêmes arguments sur la paille ou ce genre de matériaux. Il y a des qualités de l'air dans les bâtiments en terre qu'on ne retrouve pas dans les bâtiments industriels. L'hygrométrie dans l'air, en fait, elle est absorbée par le mur et restituée à l'extérieur. En fait, c'est un mur qui vit, qui est tout le temps en permanence en train de respirer. Et donc, grâce à ça, on a des qualités d'air ambiant qui sont exceptionnelles et on a un confort thermique qui est considérable.
Alors là, du coup, on est devant l'exposition organisée par Tikas. Elle est composée de quoi, cette expo?
Alors, on a une planche qui est dédiée à la présentation de l'association Coff Espoir, donc toute la ferme avec l'organisation bâtie, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font dans leur activité au quotidien, où est-ce que ça se situe. Donc voilà, c'est une planche un peu d'introduction. Et ensuite, on a toutes les étapes du chantier du bâtiment, donc de la maçonnerie à la charpente, à la couverture jusqu'à la finition. Et on a une dernière planche qui est dédiée à ce qu'on a fait à côté du chantier, donc tout l'échange culturel qu'on a eu, donc notamment ce passage au champ, mais aussi la teinture à l'indigo, la création de savon, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de des planches. En fait, on a vraiment voulu transmettre l'ambiance qu'on avait sur place. Donc on a fait pas mal d'illustrations pour que ce soit vraiment parlant pour les gens, que ce soit accessible à tout le monde et pas que les archis. Et donc voilà, c'était vraiment l'intention de plonger complètement le spectateur dans l'atmosphère du chantier.
Du coup, c'est une expo qui est composée essentiellement de planches de dessins qui illustrent. Il n'y a pas de photographie.
Alors si les photographies sont disposées tout au long de la banane, donc c'est le bâtiment où il y a tous les ateliers dans l'école, et donc ces photos on les retrouve dans des cadres, et c'est des photos en fait qui illustrent le chantier davantage que les illustrations, pour que ce soit plus parlant et qu'on voit vraiment les vrais gestes. On essaie vraiment de retranscrire quelque chose de très visuel, et donc quand on se balade dans la banane, dans tous les ateliers, on peut voir les photos au fur et à mesure de notre trajet jusque dans le hall où il y a l'exposition.
Est-ce que le fait de faire une expo, c'est quelque chose qui donne un sens supplémentaire à tout ce projet ?
Oui, bien sûr, parce que pour nous, c'est un échange culturel, ce qu'on a fait. Il est vital, en fait, pour nous de transmettre cet échange culturel et le faire perdurer. Donc, c'est aussi donner envie aux étudiants de l'école et à tous les jeunes du coin de faire ce genre d'expérience, de manière à apprendre beaucoup, puisqu'on apprend beaucoup des autres pays. Et notamment de cette population qui a fait beaucoup évoluer en fait notre regard sur la profession et sur le Bénin en général, sur la matière première, sur plein de choses. Donc c'était très enrichissant.
C'est en accès libre ici ? N'importe qui peut passer pour venir voir ?
Alors ce soir, c'est en accès libre, oui, c'est public, puisque c'est une conférence qui est ouverte à tout le monde. Malheureusement, le reste du temps, en plus en ce moment, on est en plein Vigipirate, donc c'est pas accessible pour tout le monde dans l'école. Par contre, il y a la salle Aouen du Crous en face du TNB à Rennes, où on fait la même exposition en ce moment, qui est ouverte tous les soirs de 17h30 à 20h. Donc vous pouvez vous y rendre très facilement, il y aura des gens pour vous accueillir là-bas.
On était avec Quentin, le président de l'asso TICAZ, pour présenter l'exposition « La Terre, un matériau universel ». L'expo est visible au 20 rue Saint-Hélier à la galerie Aouen jusqu'au 27 octobre. Merci Quentin.
De rien, merci à vous.
Thank you.
L'amour des dieux d'enfants perdus sur Canal B, c'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. Un single autoproduit qui est sorti le 1er octobre et qui arrive un an après le premier album d'enfants perdus, un trio de pop alternative situé entre Rennes et Paris. La Rennes, l'émission d'info locale de Canal B, continue et se termine toujours avec la recommandation du jour. C'est parti. La recommandation du jour, ce sont des conseils de choses à voir, à lire, à écouter, souvent à vivre. Et c'est le cas avec l'événement qu'on annonce aujourd'hui, une chouette conférence qui se déroule au Champ Libre. Des conférences pour les familles, spécialement adaptées pour les enfants à partir de 7 ans. Et mercredi 25 octobre, à partir de 15h, les curieux pourront en apprendre plus sur l'Arctique. Direction le Grand Nord, un milieu à la fois effrayant et fascinant, pour se poser les questions suivantes. Comment y vivent les animaux, les êtres humains, comment préserver ce territoire à l'heure du réchauffement climatique? Les réponses seront données par Vincent Grison, responsable d'expédition, il est rennais, par Hugo Letellier, également l'illustrateur d'un album illustré de l'expédition de Vincent Grison qui est sorti fin 2022. Tous les deux inviteront les enfants à un véritable voyage, mais en restant bien au chaud dans l'auditorium des Champs Libres, le tout animé par l'autrice jeunesse Jessie Magana. Pour plus d'infos, il y a le site leschampslibres.fr. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Rennes, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.